On va continuer l'étude dans Galates. On est en train d'étudier le livre de Galates. On est au chapitre 5, puis ce soir, on va voir les versets de 7 à 12. C'est toujours en continuité de ce qu'on a déjà vu. L'apôtre Paul y amène argument par-dessus argument pour essayer de ramener les membres de ces églises-là, de la Galatie, qui étaient comme influencés négativement de retourner à pratiquer la loi pour gagner le ciel quand il était déjà des gens sauvés. Puis il essaie d'expliquer que le salut, il vient par la foi en Jésus, non pas par la pratique de la loi de Moïse. Eux autres, il y avait ce combat-là, les Juifs, parce qu'ils sont nés dans la religion juive. Puis une fois que tu es dans la religion, souvent, tu as de la misère de décrocher pour passer à autre chose. C'est comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans la province de Québec sont encore attachés à l'Église catholique. C'est parce qu'ils sont nés catholiques, étaient pratiquants catholiques. Puis là, ils acceptent Jésus comme leur sauveur, puis après ça, ils ont de la misère à lâcher la religion catholique. Puis là, Paul il a démontré depuis les premiers chapitres que le salut il est donné au travers du Messie et non selon la loi de Moïse. Ça, c'est important de comprendre que le salut vient par la foi en Jésus, non pas par peu importe quelle religion. Paul y revient à la charge en demandant aux gens, qui sont les gens qui les arrêtent de suivre seulement Jésus? L'apôtre Paul, là, il s'inquiétait, puis il voulait savoir c'est qui dans l'Église qui est toujours en train de ramener qu'il fallait qu'il retourne à la loi de Moïse. Dans Galates 5:7, ça dit, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Parce que là, les gens étaient embrouillés. C'était déjà des gens engagés qui suivaient Jésus, qui avaient reçu Saint-Esprit. Ils marchaient avec Dieu, vivaient des dons spirituels, vivaient la puissance de Dieu. Puis à un moment donné, ils se font influencer par des gens d'arrêter. En fin de compte, ils ont arrêté de quoi? Ils ont arrêté de courir pour le Seigneur. Il était rendu qu'il était tellement mêlé qu'au lieu de suivre Jésus parce qu'il savait que le salut est en Jésus, puis il aime Jésus, puis il voulait suivre Jésus, puis à un moment donné, ils se font dire, c'est pas Jésus seul qui te sauve, faut-il pratiquer la loi de Moïse? Ça a ralenti les gens de ces églises-là. Puis là, ils voulaient plus... C'est qu'il était mêlé, il était tiraillé entre suivre Jésus puis de retourner à la loi. La Bible nous parle comment est-ce que dans les premiers jours de la vie chrétienne, on a mis notre foi en Jésus puis on était prêt à passer au travers des épreuves en fonçant pour Jésus. Une fois que tu acceptes Jésus, au début de ta vie chrétienne, tu suis puis tu veux suivre puis tu es prêt à passer à travers n'importe quoi pour suivre Jésus. Puis ça, eux autres, ils étaient comme cela au début. Ils couraient pour le Seigneur. Dans Hébreux 10, 32, ça nous dit, « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. » Mais quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux a dit ça, il parlait en général, tous les chrétiens qui ont compris que le salut est par Jésus seul, puis t'acceptes Jésus comme ton sauveur, il y a comme une force spirituelle qui nous anime, une attitude prête à aller jusqu'au bout pour le Seigneur, puis à faire plein d'affaires. Il dit, souvenez-vous de ces premiers jours, quand t'as été éclairé, t'as soutenu un grand combat. Mais les gens de Galatie, c'était la même chose. Il lui dit, vous courriez bien. Il est en train de courir pour le Seigneur. Qui vous a arrêté? Pour nous, en chrétiens, c'est quoi qui nous arrête aujourd'hui? C'est-tu des fausses doctrines? C'est-tu parce qu'on est éteint, qu'on n'a plus le goût, qu'on ne croit plus, qu'on est affaibli, qu'on doute? C'est quoi qui nous arrête? C'est quoi qui nous empêche de courir pour le Seigneur? Pour nous empêcher d'obéir à la vérité. Voyez-vous, courir pour le Seigneur, puis être arrêté, en réalité, ça nous empêche, quand t'es arrêté, ça t'empêche d'obéir à la vérité. C'est qu'on arrête d'obéir à la vérité. C'est comme si tous les points de doctrine de la vérité, on les oublie, puis là, on pratique plus ça, on retourne à une religion où on retourne à plus rien faire. Il y a plein de choses qui peuvent arrêter des chrétiens, mais dans ce cas-là, eux autres, c'est que des gens leur enseignaient des faussetés. Puis là, tu es en train de courir pour le Seigneur, tu fonces dans plein d'affaires, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui débarque, puis essaie de t'arrêter, puis essaie même de te détourner. Ah, est-ce qu'on est des gens qui sont facilement détournables, nous, aujourd'hui? Ah, est-ce qu'on est des gens facilement arrêtés de vouloir courir pour le Seigneur, d'être remplis de zèle pour lui, de le faire passer en premier dans notre vie, de prendre du temps avec lui, d'aller à l'église, d'aller évangéliser, d'aller faire de quoi pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un qui nous a arrêtés, mais les gens de Galatie étaient arrêtés par des gens qui prêchaient de retourner à la loi de Moïse? Le but dans la vie de la foi, c'est de garder un même zèle, le zèle qu'on avait au début, là, de garder le même zèle jusqu'à la fin. C'est ça le but pour un chrétien, de pas se laisser arrêter, parce que c'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui héritent. C'est ceux qui persévèrent dans leur foi qui héritent des promesses de Dieu. Dans Hébreux 6, 11 et 12, ça dit, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle que tu avais au départ, le même zèle que faut que tu aies dans la suite, le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. » Voyez-vous, dans ce passage-là, nous parle d'avoir le même zèle, un zèle continuel, de persévérer. Puis il dit même, là, pour hériter une promesse de Dieu, là, toutes les promesses de la Bible, pour hériter une promesse de Dieu, ça prend deux affaires. Ça prend de la foi dans la vérité, croire en Jésus, et non pas croire que c'est ta religion ou la loi de Moïse, avoir la foi, puis avoir de la persévérance. Les gens de Galatie, ils ont pas eu de la persévérance. Ils étaient arrêtés par des fausses doctrines. Puis ça les empêche d'avancer. Mais nous, en tant que chrétiens, il faut forcer à garder la foi, puis à persévérer, même si t'es las, abattu, écrasé, t'es éteint, t'es déçu, t'as de la peine, tu as des souffrances, t'as des maladies, peu importe le combat que t'es en train de livrer, faut que tu persévères à garder le même zèle, puis à conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Faut continuer à avoir confiance qu'on s'en va au ciel, que le Seigneur nous tient dans sa main, on lui appartient, on est ses enfants, puis il va nous amener là, puis on va hériter. Mais cette attitude-là, faut la garder jusqu'à la fin. Faut pas se laisser ébranler, ni endormir, ni écraser par les soucis, parce qu'il y a un verset qui dit de pas se laisser apesantir par les excès du manger, du boire et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne à l'improviste. Faut pas se laisser apesantir. Ça, c'est devenir pesant, lourd, plus goût d'avancer, plus capable d'avancer. On est rendu trop pesant. Ce n'est pas tout ce qu'on entend qui vient de Dieu. Il faut connaître la voix du Seigneur puis sa parole. C'est pas tout ce qu'on entend qui vient de Dieu. Galates 5, 8, Paul il le dit. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Ces gens-là, dans l'église de Galatie, ils étaient influencés par des Juifs non réellement convertis, qui croyaient encore à la loi de Moïse pour leur salut, puis qui étaient en train de mettre le fardeau, puis d'arrêter les chrétiens de Galate en leur mettant ce fardeau-là. Et cette influence-là ne vient pas de celui qui vous appelle. Celui qui nous a appelés, c'est Dieu. Puis Dieu, quand il nous appelle, il veut qu'on marche selon sa parole. Mais les gens qui arrêtent d'obéir à la vérité, qui obéiraient à la parole, mais ils se laissent détourner. Soit parce qu'ils pensent que... C'est pour ça que je dis, c'est pas tout ce qu'on entend qui vient de Dieu. On entend souvent... des prêches un peu partout, sur Internet, ailleurs, des affaires qui sont pas basées sur la Bible, c'est pas la pensée de Dieu. Puis les gens se font induire en erreur. Puis il est important de développer le discernement. C'est-tu ça que Jésus dit? C'est-tu ça que les apôtres disent? Là, t'écoutes ce qui est enseigné, puis il est bien beau d'être fin, d'être beau, d'être gentil, c'est lui qui prêche en avant, mais il faut écouter ce qu'il dit puis savoir si c'est vrai, parce que ça se peut que ça soit pas vrai. Les gens de la Galatie se faisaient enseigner des faussetés. Puis l'apôtre Paul, il dit, je veux savoir c'est qui vous arrête. Parce que c'est grave. On va le voir un petit peu plus loin. Le chrétien, il a trois sources d'influence négative qui agissent dans sa vie. Parce que là, il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Ça veut dire, Dieu peut nous influencer, mais des fois, on est influencé sans que ça soit Dieu qui nous influence. Il y a trois sources d'autres d'influence qu'on peut avoir dans notre vie, qui ont des influences négatives. Il y a les esprits qui sont là. Il y a des mauvais esprits. Il y en a qui se promènent autour de nous, continuellement. Satan, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Ça nous dit de lui résister. Mais ça dit que Satan rôde, mais quand on dit Satan, c'est pas juste Satan personnellement, c'est ses démons, ses esprits qui travaillent avec lui, qui rôdent autour de nous. Faut faire attention de pas se faire influencer par les esprits. Il y a le monde aussi qui nous influence. Le monde dans le mode de vie, le pensée, il nous embrouille l'esprit avec la radio du monde, la musique du monde, la télévision, les films du monde, toutes sortes de choses, de doctrines du monde qui nous affectent, on est nourri. On passe au moins 16 heures de bout d'une journée. Combien de temps qu'on passe dans les pensées du Seigneur? Combien de temps qu'on passe dans les pensées du monde? Ces chrétiens sont faibles, c'est parce qu'ils passent pas assez de temps dans les choses de Dieu. Ils sont influencés par le monde, sont écrasés, puis ça nourrit pas, puis on est abattu, puis on a de la misère à faire un pas devant l'autre, spirituellement parlant. Il y a aussi notre propre chair qui nous influence. Elle nous parle. Notre chair, notre corps a une volonté qui est contraire à celle de l'Esprit de Dieu. Faut s'écouter, là. Faut écouter, savoir, est-ce que mon corps qui m'appelle là, aujourd'hui à faire telle et telle chose, à dire des choses, à faire des choses, ou si c'est l'Esprit de Dieu? Ça, c'est trois influences négatives qui affectent les chrétiens, puis que l'influence vient pas de Dieu. Là, dans ce cas-là, pour les gens de la Galatie, c'était un humain animé de ses pensées humaines qui enseignait des fausses doctrines, puis ça l'influençait les gens de cette église-là. Paul, il continue en lui expliquant dans sa lettre, « Quand tu laisses rentrer un petit peu de levain, là, mais ça fait lever toute la pâte. » Dans Galates 5:9, il dit, « Un peu de levain fait lever toute la pâte. » Le pain qu'on mange, Joe, c'est du pain avec du levain. Ils ont mis du levain, ils ont mis juste un petit peu de levain dans une boule de pâte. Qu'est-ce qu'à faire? Bouh, la boule de pâte, elle gonfle. Ça fait les pains gonflés qu'on a aujourd'hui. Nos pains qu'on achète, c'est du pain avec levain. La pâte, elle a levé, puis elle est devenue une grosse pâte, fait des grosses tranches de pain. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Mais là-dedans, il y a une vérité spirituelle dans cette idée-là, que quand tu laisses rentrer un petit peu de choses négatives, d'influences négatives, c'est pas long que toute la pâte est levée. C'est le côté négatif. Il dit, le levain dans la Bible, là, ça, c'est une métaphore de la corruption morale et mentale. Puis là, ça a la tendance à infecter les autres. Parce que si une personne est animée d'un petit peu de levain, un petit peu de pensée perverse, un petit peu corruption, un petit peu de mentalité élevée parce qu'elle se pense bonne, puis un petit peu d'orgueil, un petit peu de mensonge, tu commences à répéter ça aux autres, toute la gang devient contaminée. Le petit peu de levain fait lever la pâte. Il y a une autre manière aussi de le comprendre, parce que le levain, il y a un côté positif aussi dans d'autres phrases, comme dans un autre verset. une parabole que Jésus a amenée dans Matthieu 13, 33. Il dit cette autre parabole, le royaume des cieux semblable à du levain qu'une femme a pris, qui a mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à la pâte soit toute levée. Spirituellement, il y a un bon côté de le levain, mais ici, dans l'apôtre Paul, quand il a dit ça aux gens de la Galatie, c'était sur le côté négatif. Il laisse rentrer un peu de levain. Ah, oh, un peu, on retourne à la loi, on va se faire circoncis, on va commencer à pratiquer les principes, les préceptes, puis les ordonnances de la loi pour gagner notre ciel. Non. C'est pas le chemin de la loi qu'on veut suivre. On s'est pas engagé à suivre le chemin de la loi. On s'est engagé à suivre le chemin de Jésus-Christ. Le salut par Jésus, puis pas question qu'on laisse rentrer un autre semence qui vient d'une influence qui est pas de Dieu. Dans le mauvais sens, c'est une influence pernicieuse. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu laissé aller, un peu de méchanceté, un peu de mensonge, un peu... Puis c'est pas long que toute notre vie elle va être chambranlée. Jésus avait aussi dit dans un autre passage de se garder du levain des pharisiens puis de Hérode. C'est de pas toucher à ça, toute leur mentalité orgueilleuse qu'eux autres avaient. Parce que, en tant que chrétien, on sait qu'on n'aura pas de mérite, puis tous les mérites viennent à Jésus. Paul, il mettait sa confiance dans le Seigneur pour que les gens de la Galatie prennent la bonne décision. Dans Galates 5:10, il dit « J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. » Parce que qu'est-ce qui peut encourager un chrétien, un pasteur ou un ancien, quand il regarde son église puis qu'il voit son église à de la misère? Qu'est-ce qui peut nous encourager? Où est-ce qu'un pasteur va chercher son encouragement? C'est dans le Seigneur. C'est le seul endroit de faire confiance que le Seigneur, il va parler au cœur. Il nous le dit dans un autre passage, il dit « Pourquoi tu juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, ça le regarde son maître. » Fait que Dieu, il est capable de le relever. Fait qu'il faut apprendre à faire confiance à Dieu, que Dieu va relever l'Église. Il va les amener, il va les ramener dans le bon chemin. C'est ça qu'il faut se dire entre nous autres. Dieu va faire les choses. Dieu va nous garder. Dieu va faire il va ramener les gens. Même quand t'espères au salut des âmes de tes enfants, Dieu va les amener aussi au salut. Mais autant dans la même phrase qu'il croyait que Dieu t'a pour les ramener, il continue sa phrase en disant que celui qui a enseigné des faussetés, il va en porter la peine. Dans Galates 5:10, on continue, celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Ça parce que la personne, c'est une ou des personnes qui influençaient l'Église à retourner à la loi. L'apôtre Paul, il s'est acharné pendant 5 chapitres à essayer de lui expliquer d'abandonner cette idée-là, de pas croire que c'est d'autre chose que la foi en Jésus qui nous sauve. Mais il a dit, tout à l'heure, au début de ces versets-là, aujourd'hui, j'ai dit, c'est qui vous trouble? C'est qui vous a arrêté? Puis là, il est dit, celui qui vous trouble, là, quel qu'il soit. Même si ça sera un pasteur qui enseigne des faussetés, même si ça sera un ancien qui enseigne des faussetés, ou même si ça sera un simple disciple qui enseigne des faussetés pour troubler toutes les autres, celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Ça veut dire que Dieu va s'en charger d'établir un jugement, puis de ramener les disciples dans la vérité, puis celui qui a fait les... Là, celui ou ceux qui ont fait le trouble dans l'Église, mais Dieu va les punir. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a un verset qui nous dit dans la parole que quand tu es une occasion de chute pour un frère, c'est très grave. Quand on est une occasion de chute pour les frères, c'est très grave. Dans Jacques 3.1, nous avait dit un verset semblable. Il dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Quand t'enseignes, faut que tu t'assures que ce que t'enseignes, t'enseignes la vérité. Si des gens prennent plaisir à enseigner des mensonges, comme ceux de l'Église de Galate, mais ils enseignaient des mensonges, ils enseignaient qu'il fallait qu'ils retournent à la loi de Moïse, puis se faire circoncire, mais ils vont être jugés plus sévèrement. C'est pour ça qu'il a dit, peu importe qui ce que c'est, ils vont subir la peine. Même si c'est un pasteur, un évangéliste, un missionnaire, un apôtre, quelqu'un qui se dit apôtre, même Paul, il dit dans un autre passage, il dit, même nous, les apôtres, si on prêche un autre évangile, là, qu'on soit anathème. Mais c'était de même, c'était tranchant de même dans ce temps-là, puis ça l'est encore aujourd'hui. Quand que les gens, aujourd'hui, tu regardes sur Internet, tout le monde enseigne n'importe quoi. Tout le monde se permet d'enseigner n'importe quoi, puis le monde, ils savent pas de ce qu'ils parlent, ils comprennent pas ce qu'ils parlent, puis ils enseignent toutes sortes d'affaires, puis c'est des mensonges. Il y en a plein. Il y en a plein. C'est pas des farces. Puis s'ils enseignent des mensonges, quels qu'ils soient, ils vont porter la peine. Ils vont être jugés plus sévèrement. Faut éviter d'enseigner. Quand tu parles de Jésus, puis tu es mort à la croix, pardonner tes péchés, ça, c'est pas de l'enseignement. Ça, c'est de l'évangélisation. Mais quand t'expliques des affaires, puis t'expliques des affaires à l'envers, puis t'expliques dans le mensonge, mais là, faut-tu t'attendre de te faire redresser par le Seigneur. Les gens de Galate, ils semblaient croire que Paul prêchait la circoncision, puis il y avait de l'air à penser que Paul était d'accord avec ça. Puis là, Paul lui a envoyé une lettre pour lui, 5 chapitres bien comme faut, pour les amener à raisonner, puis les sortir de là. Mais eux autres pensaient que Paul prêchait la circoncision, puis qu'il fallait se faire circoncire, parce qu'ils ont été trompés par ceux qui prêchaient dans cette église-là. Dans Galates 5, 11, ça dit, « Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? » Il dit, « Le scandale de la croix a donc disparu. » Il est en train de le dire, « Si je prêcherais la circoncision, je ne serais pas persécuté. Tout le monde serait d'accord avec ça. » Il est en train de dire, « Si je suis persécuté aujourd'hui, là, c'est à cause que je prêche de ne pas se faire circoncire. » Paul, il savait ce qu'il disait. Il amenait les Juifs à arrêter de se faire circoncire, pas d'aller se faire circoncire. Il prêchait aux Juifs d'arrêter la circoncision. C'est pour ça qu'il était persécuté, parce que si il prêcherait la circoncision, lui-ci, mais il dit qu'il n'y aura pas de scandale dans la croix. Mais pour les Juifs, c'est un scandale, la croix. Pourquoi? Parce qu'il arrêtait les Juifs de suivre leur religion. Il arrêtait les Juifs de suivre leur tradition. C'était une tradition pour les Juifs de se faire circoncire 8 jours après qu'ils sont venus au monde. C'était une tradition donnée par Abraham, reprise dans la loi, mais en Jésus-Christ, c'était plus nécessaire. Paul leur explique la vraie circoncision. Il l'explique dans Romains que c'est la circoncision du cœur qui compte et non pas la circoncision du corps. Paul y réclame le jugement et le retranchement de ceux qui imposent la circoncision. C'est le dernier verset dans Galates 5, 12. Puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous? Ça veut dire, c'est un jugement. Quand tu prêches des faussetés, ben, que les gens soient jetés dehors, qu'ils soient retranchés, sortis de l'Église, mis en fraternité. C'est la même chose qu'il disait, lui, s'il était un apôtre, puis il prêche un autre évangile, que je sois anathème. Ou bien un ange même qui apparaîtrait, puis prêche un autre évangile, qu'il soit anathème. Et de ceux qui prêchent un autre évangile dans l'Église, qu'ils soient retranchés, ceux qui mettent le trouble dans cette Église-là. Que Dieu les retranche, c'est ça qu'il est en train de vouloir dire. Parce que oui, dans l'Église, il y a des disciplines, mais quand c'est les dirigeants qui amènent cela, mais là, c'est assez dur de s'opposer aux dirigeants. Si tu n'en arrives pas, c'est Dieu qui va y arriver. Mais normalement, en temps normal, c'est aux dirigeants à voir à l'ordre dans l'Église que s'il y a des gens qui prêchent des faussetés, faut que le dirigeant y aille le dire d'arrêter cela. le dirigeant, il a été placé en autorité sur l'Église pour veiller sur elle, puis pour la paître, la nourrir spirituellement. Notre tâche, c'est d'enseigner la sainte doctrine, puis aussi d'exercer une discipline, comme c'est écrit aussi dans l'Évangile de Matthieu, où ce que Dieu nous dit de si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul, et etc. La parole de Dieu est claire sur plusieurs passages qu'il y a une discipline qui doit être faite dans l'Église. Puis, quand les gens prêchent des faussetés, ils disent « Éloigne de toi après un premier puis un second avertissement, celui qui cause du désordre, des divisions, n'importe quoi, là, ceux qui font le trouble. À un moment donné, t'as pas eu le choix, il faut que tu tranches pour que les gens soient plus là pour influencer négativement les autres dans l'Église. » Voyez-vous, c'est plus important pour les chrétiens d'être peut-être moins nombreux, mais qu'on se rende, que d'avoir bien du monde qui dit n'importe quoi, puis que l'Église s'en va dans l'égarement, puis que tout le monde se ramasse dans les temps de feu à la fin. Qu'est-ce qu'on préfère? Je pense que le préférable, c'est de suivre le Seigneur. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie pour tout ce que tu nous enseignes. Seigneur, donne-nous d'être attentifs à la voix de ton esprit, à la voix de ta parole. Qu'on puisse suivre ta parole, qu'on puisse garder ta parole, bâtir notre vie sur ta parole, qu'on puisse rester ferme, puis éloigner de nous, après un premier, un second avertissement, ceux qui vivent dans le désordre, puis qui vivent à déranger, puis à troubler ton Église, Seigneur. Garde-nous unis dans la foi, dans l'obéissance à la foi, en persévérant jusqu'à la fin. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.